La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors, lors de notre dernier rendez-vous, vous nous aviez particulièrement rendu attentif à l'importance de l'agneau de la Pâque sacrifié par les Israélites. Celui-ci représentait en quelque sorte le point de départ, conditionnant tout ce qui devait arriver par la suite.
En effet, d'ailleurs sans sacrifice pascal, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte et pas de suite dans le désert ou même vers le pays de Canaan. Par ailleurs, cet agneau dont le sang devait être versé sur les linteaux des portes et dont aucun os ne devait être brisé, était un puissant symbole prophétique annonçant l'œuvre de rédemption de Dieu en faveur de son peuple. Alors bien évidemment, ce n'est pas l'agneau en lui-même sacrifié chaque année qui pouvait accomplir la rédemption parfaite dont avait besoin le peuple. Le fait même de devoir répéter d'ailleurs le sacrifice chaque année montrait bien les limites de la démarche. Non, le sang répandu de l'agneau constitue toutefois le signe incontournable par lequel les générations successives d'Israélites devaient apprendre et même comprendre que la rédemption, le rachat de leur âme, passait par le sang versé. On peut même affirmer, sans se tromper, que cet agneau immolé le soir du 14 Nissan, donc le premier mois de l'année, était en quelque sorte l'ombre d'une réalité plus excellente et bien plus parfaite. Là, en fait, la préfiguration du sang versé par le Messie à venir. Alors comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, dès lors que les sacrifices ont pris fin avec la destruction du Temple il y a presque 2000 ans maintenant. Le tabernacle lui-même a été réalisé sur la base d'un modèle dans le ciel. Et il en est de même du Temple. Ces constructions éphémères sur la terre ne pouvaient donc apporter une quelconque perfection au regard de la sainteté de Dieu. Et les commentateurs du Talmud savaient pertinemment que l'économie lévitique et son cortège de sacrifices n'avaient pas vocation à demeurer pour toujours. Et ils savaient que l'époque viendrait où Dieu amènerait un temps de réforme pour établir une rédemption éternelle. Et pour les rabbanim, donc les rabbins, la nature éternelle de l'alliance à venir porte des noms tels que Nouvelle Alliance, dont par exemple le prophète Jérémie, ou encore Alliance de paix, rapporté par le prophète Ézéchiel, et même déjà aussi dans le livre des Nombres. Mais ça, nous reviendrons ultérieurement sur ces expressions assez singulières. Alors pour les Juifs et les commentateurs éclairés de la Bible, l'alliance éternelle supplante et dépasse de loin en perfection celle transitoire que nous retrouvons dans le Lévitique avec toute sa répétition continuelle des sacrifices. Cela signifie clairement que les sacrifices répétés des animaux ne peuvent apporter une perfection pour la rédemption des hommes, pour leur salut. Ils ne sont en effet que le reflet visible d'un sacrifice unique et encore invisible pour le peuple. En attendant que se dévoilent aux yeux de tous les contours du sacrifice unique et parfait qui accomplira une fois pour toutes la rédemption attendue, eh bien il nous faut scruter les indices donnés par Dieu dans ce monde-ci, ce monde visible, et aussi de ce qu'il a préparé depuis toujours pour notre salut.
Eh bien justement, comment est-ce qu'on va découvrir ces indices dans le texte biblique qui nous permettront de découvrir en quelque sorte la face cachée de ce que Dieu a préparé pour le salut de l'humanité ? Depuis quelque temps déjà, on cherche à découvrir le profil du Messie dans les textes de la Torah. On peut dire donc que les choses se mettent doucement en place.
Oui, d'ailleurs, comme je l'ai déjà évoqué dans nos émissions précédentes, nous sommes un peu comme face à un gigantesque puzzle qui représente d'une certaine manière le tableau du salut de Dieu pour les hommes. Dans le monde chrétien, on a tendance à se saisir avant tout du modèle de Jésus et de sa vie pour le plus souvent tenter de faire coller un peu les pièces du puzzle de sa vie au tableau biblique. Sauf que même si l'on est convaincu que Jésus est bien le Messie, le portrait que l'on a de lui peut être si déformé que par des dogmes, par des idées reçues depuis des siècles, que finalement la tentation est grande de forcer en quelque sorte, d'une certaine manière, des pièces de notre modèle dans un puzzle que l'on ne connaît pas ou pas assez bien en tout cas. Alors, il est vrai que pour les puzzles qu'on achète comme ça dans le commerce, alors ben, on vous fournit le modèle hein, sur la boîte. Mais notre approche est quand même assez différente. Et afin d'éviter d'abîmer l'image que l'on tente de reconstituer du Messie Sauveur, eh bien, j'ai préféré travailler un peu différemment. Les premiers croyants ne disposaient d'ailleurs pas d'autres textes que le Tanakh, c'est-à-dire l'ensemble des textes de la Torah ou des prophètes. Nous cherchons donc des indices dans l'ensemble des récits de la Bible pour reconstituer le profil du Messie et ensuite seulement nous examinons si ces pièces peuvent se rapporter au profil de Yeshua dans les évangiles. Et c'est sans doute ainsi que procédaient les Juifs à ce moment-là. Et il nous est dit, par exemple, que les Juifs de la ville de Bérée, qu'ils vérifiaient eux-mêmes dans les Écritures si ce qu'on leur disait au sujet du Messie Yeshua était bien en conformité avec le profil du Mashiach dans les Écrits sacrés. Ce n'est donc pas parce que l'on dispose aujourd'hui des évangiles et des lettres de Paul, par exemple, entre autres, que nous devons faire l'économie de cette recherche. Nombreux sont ceux et celles qui, hélas, tout en ayant à leur disposition les textes néo-testamentaires, c'est-à-dire du Nouveau Testament, se sont en fait fourvoyés quant au Messie. Lorsque Yeshua est arrivé au milieu de son peuple, il y a de cela 2000 ans, on peut dire que les pièces du puzzle, débutées fort longtemps auparavant, se sont trouvées en quelque sorte un peu toutes réunies au même endroit. Le seul hic, si l'on peut dire, c'est que les pièces devaient encore être assemblées correctement afin de voir très distinctement le profil du Messie. Et c'est ce que Yeshua dit d'ailleurs en substance dans le texte que l'on connaît peut-être, Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. »
Les choses semblent vraiment claires dans ce texte. Jésus est venu donc accomplir toutes les prophéties le concernant. Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'il convient de comprendre cette parole ?
Alors, a priori, oui, mais notre traduction française ne rend pas toute la profondeur du texte. La déclaration de Yeshua comporte plusieurs choses et s'insère dans un discours que l'on appelle par ailleurs le serment sur la montagne, en rapport d'ailleurs avec le lieu où se déroule l'échange très instructif que le rabbin Yeshua a eu avec les religieux de son époque. Mais à y regarder de près, la structure du dialogue entre Yeshua et les rabbanim qui l'entourent a une forme que l'on pourrait qualifier de mishnique. Il s'agit en fait d'une construction qui consiste un peu à alterner questions et réponses avec une rhétorique très particulière. Et mishnique se rapportant en fait à la méthode de dialogue que l'on retrouve aussi dans le Talmud. Les auditeurs de Yeshua ont en tout premier lieu retenu qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. En d'autres termes, la loi reste parfaitement en vigueur et peut-être que cela a en quelque sorte rassuré certains qui peut-être s'en inquiétaient. Au tout départ du discours de Yeshua, il énonce une série de phrases que le monde chrétien a désignées sous le nom de béatitude. En réalité, il s'agit d'un texte déjà existant et connu comme fixant en quelque sorte le cadre de l'ère messianique à venir. Les deux dernières proclamations sont cependant ajoutées par Yeshua quand il relie la persécution de ses disciples à son nom, à lui, à sa personne. En d'autres termes, il affirme rien de moins que c'est lui, Yeshua, le Messie, qui inaugure cette nouvelle ère messianique. Suit une relecture de certains commandements, plutôt élémentaires, qui, pour le moins, au regard de la conscience de chacun, ne pouvaient être accomplis par qui que ce soit. D'une certaine manière, Yeshua est en train de dire que personne ne peut accomplir la loi parfaitement et être déclaré juste en vertu d'une stricte obéissance aux commandements. Et les disciples le réalisent d'ailleurs assez rapidement. Aussi, quand Yeshua déclare dans notre verset que la loi ne sera pas abolie, il jette peut-être un froid nourri d'une certaine inquiétude. Comment la loi, qui tient une place si centrale dans la vie des Juifs, deviendrait-elle en elle-même un obstacle, finalement, à toute justification devant Dieu. Et sur le plan de la conscience, personne ne peut être pur et rien dans la loi lévitique ne peut satisfaire la véritable exigence de justice de Dieu.
D'accord, mais alors comment est-ce qu'on va sortir de l'impasse ? Jusque-là, on ne pouvait pas être purifié ?
Eh bien, oui et non. Sur le plan de la conscience, les Israélites savaient pertinemment que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait amener à la perfection une quelconque purification. C'est pourquoi il existait un sacrifice spécial qui remplissait cet office. Il s'agit de ce qu'on appelait le sacrifice perpétuel. et on en reparlera plus longuement la prochaine fois. Vous vous demandez peut-être en quoi notre texte de l'Évangile et la parole de Yeshua peuvent bien être reliés à notre texte de l'Exode. Alors en réalité, le terme employé par Yeshua pour désigner l'accomplissement, en Matthieu chapitre 5, est un terme assez spécial, propre tout simplement à la dialectique rabbinique. Ce terme se prononce « qui y aime ». Un petit peu compliqué à prononcer, mais c'est ainsi. Et il recouvre bien plus que l'idée simplement d'accomplir quelque chose. La notion d'accomplissement en général évoque le sentiment que l'on aboutit au terme d'un cheminement, un achèvement de quelque chose. Or, l'idée que Yeshua veut exprimer est peut-être moins le fait qu'il accomplit l'ensemble des prophéties messianiques annoncées par les prophètes que le fait qu'il inaugure une ère nouvelle, l'ère messianique où la loi se trouve pleinement réalisée et où le sens primaire de la purification de l'individu qui s'approche de Dieu trouve une plénitude et une réalisation réelle et complète. Le sacrifice que Yeshua va accomplir en sa personne, quelque temps plus tard, le sera en accord avec la loi. Et en ce sens, alors, on peut dire que la loi n'est effectivement pas abolie. Et elle atteindra aussi une perfection qui permettra la purification des péchés jusque dans les consciences. Un seul sacrifice parfait aboutit ici à une purification des consciences telle que l'offrande n'a plus besoin d'être renouvelée. Et la justification se trouve obtenue par un sacrifice que la loi laissait augurer en elle-même. Il fallait seulement que le Mashiach accomplisse pleinement ce pour quoi il était venu, et ce conformément à ce que la loi exigeait.
Donc si je comprends bien, il y a en gestation dans la loi l'annonce d'un sacrifice unique, donc propre à purifier les consciences des hommes et accomplir pour eux une justice véritable. Yeshua l'évoque dans le sermon sur la montagne, mais les gens ont dû être surpris, non ?
Ah, dans une certaine mesure, oui. Tout en reconnaissant le rôle provisoire des sacrifices, personne n'imaginait vraiment une telle purification des consciences et une justification par la loi, tandis que Yeshua démontrait le caractère inéluctable de la condamnation divine dans les conditions qui avaient prévalu jusque-là.
Mais les Israélites dans le désert n'en sont pas encore là, j'imagine.
Ah non, non, en effet, la loi est rapidement comprise comme devant régler les différents quotidiens. Mais sous le rapport de la conscience, le peuple doit, lui, encore apprendre.
Vous voulez parler de ce sacrifice plutôt énigmatique appelé le sacrifice perpétuel, si je ne me trompe pas.
Oui, en effet. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui-ci n'a pas cessé à proprement parler. Mais ça, eh bien, on en reparlera la prochaine fois.
Oui, effectivement, puisque notre émission touche à sa fin, on poursuivra donc dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Au revoir, Guy.
Au revoir.
Merci à vous deux, Guy et Benjamin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée. En attendant, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet www.lebergerdisrael.org pour retrouver les thèmes développés dans cette émission.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.